Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer la maladie de Fabry et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Bertrand Knebelmann. Professeur Knebelmann, bonjour.
Bonjour.
Professeur Knebelmann, vous êtes néphrologue au sein du service de néphrologie dialyse adulte de l'hôpital Necker Enfants Malades à Paris. Et vous êtes également responsable adulte du centre de référence maladie rénale héréditaire de l'enfant et de l'adulte, MARIA. Alors aujourd'hui, on aborde les atteintes rénales et cardiaques de la maladie de Fabry. Et on va débuter par les atteintes rénales. Quels sont les principaux symptômes rénaux qui peuvent faire suspecter une maladie de Fabry ?
Alors, la maladie de Fabry peut effectivement toucher le rein et entraîner des dépôts de GB3 dont on vous a parlé dans presque tous les compartiments du rein, vaisseaux, glomérules et tubules. Comme souvent, l'atteinte rénale est le plus souvent silencieuse, surtout dans ce type de maladie où il n'y a pas de proténurie abondante. On peut signaler d'emblée qu'il n'y a jamais, par exemple, de syndrome néphrotique avec œdème des membres inférieurs, proténurie abondante, hypoalbuminémie. Ceci doit faire rechercher une autre cause. Les atteintes rénales donc, sont le plus souvent soit recherchées dans un contexte de suspicion de maladie de Fabry, soit de découverte fortuite. Ça va être une proténurie, éventuellement même à un stade précoce, une microalbuminurie sur un dosage au laboratoire, soit pour autre cause, soit par exemple devant une hypertension artérielle. À un stade plus avancé, ça va être une macroproténurie supérieure à 300 mg par gramme de créatinine, qui va être soit dépistée par une bandelette urinaire, par exemple devant une hypertension artérielle, c'est un dépistage qui va être systématique, soit dans le cadre d'un bilan plus global. Il faut préciser donc que cette proténurie n'est jamais très abondante, entre 0,5 et 2 maximum grammes par gramme de créatinine. Il n'y a pas par contre d'hématurie macroscopique, ni même microscopique, et pas de leucocyturie. L'HTA est souvent plus tardive, pas forcément sévère, surtout s'il n'y a pas d'insuffisance rénale. On reverra que l'hypertrophie ventriculaire gauche peut paraître dissociée, notamment par rapport à la modicité de cette HTA. Les symptômes, comme souvent en cas de maladie rénale pas très proténurique, ne vont apparaître qu'au stade tardif de maladie rénale chronique stade 4 ou 5, qui survient vers 40 ans environ, 40-50 ans, dans les formes non traitées. Enfin, le diagnostic va être aidé par des antécédents de maladie rénale dans la famille, parfois de mise en dialyse ou de transplantation pour une néphropathie qui n'est pas déterminée chez un ascendant, la mère d'un homme atteint, ou un oncle, puisqu'il n'y a pas de transmission père-fils. Enfin, pour cette maladie liée à l'X, il faut souligner que c'est une maladie qui peut quand même avoir des symptômes chez les femmes hétérozygotes, qui sont en général des symptômes plus tardifs que chez les hommes, dus à des anomalies d'inactivation du chromosome X, mais les femmes peuvent quand même développer une proténurie et une insuffisance rénale, voire même une insuffisance rénale terminale. Donc des symptômes peu parlants et le diagnostic va être porté parfois par la biopsie rénale qui va, devant une proténurie, une insuffisance rénale, être réalisée et montrer des dépôts de GB3 dans différents compartiments du rein. Enfin, parfois, le diagnostic de maladie rénale est fait de plus en plus avec des techniques modernes de génétique moléculaire devant, par exemple, une proténurie de cause non identifiée. Il n'y a pas de maladie systémique qui a été identifiée, les symptômes autres du Fabry, angiokératome, etc., acroparesthésie d'enfance, soit ne sont pas présents, soit sont très discrets, soit ont été oubliés. Et c'est donc parfois sur un screening de génétique moléculaire pour une maladie proténurique, on fait ça en général sur un panel d'une soixantaine de gènes ou sur un exome, que le diagnostic de maladie de Fabry va être porté, parfois avec surprise.
Et lorsque la maladie évolue, quelles sont les conséquences sur le rein ?
Alors, l'histoire naturelle de la maladie fait que cette proténurie va passer du stade microalbuminurie au stade proténurie, un peu comme dans le diabète, puis va se développer une insuffisance rénale, en général assez lentement progressive, qui va atteindre historiquement, vers l'âge de 40-50 ans chez les hommes, le stade de maladie rénale chronique stade 5, c'est-à-dire nécessitant l'épuration extrarénale. Cette évolution est assez lente, plus rapide si la proténurie n'est pas contrôlée. L'HTA, si elle n'était pas présente initialement, apparaît souvent au cours de la maladie, favorisée probablement à la fois spécifiquement par la lésion des maladies de Fabry et secondairement à l'insuffisance rénale chronique, comme toujours, l'HTA est souvent présente.
Alors, même question pour les symptômes cardiaques. Quels sont les principaux symptômes cardiaques qui font suspecter une maladie de Fabry?
Alors, la maladie de Fabry touche très volontiers le cœur. C'est une des atteintes les plus fréquentes avec le rein. Elle peut être responsable de cardiomyopathie, de troubles du rythme, de troubles de la conduction et d'insuffisance cardiaque à un stade avancé. Donc l'interrogatoire et l'examen rechercheront des palpitations, des douleurs thoraciques, une dyspnée, des lipotymies, voire des épisodes de syncope. Parfois, c'est un souffle cardiaque qui va révéler une valvulopathie, beaucoup plus rarement une endocardite sur une valvulopathie préexistante fera découvrir la maladie. Enfin, à un stade avancé, des signes d'insuffisance cardiaque congestive peuvent se manifester.
Et en termes de conséquences, avec l'évolution de la maladie, quelles sont les conséquences sur le cœur de cette maladie de Fabry?
Alors, les conséquences vont être à la fois des troubles du rythme de la conduction et une cardiomyopathie. Ces conséquences vont se traduire par des symptômes qu'on a vus. Sur l'ECG, l'apparition de signes d'hypertrophie ventriculaire gauche, de troubles du rythme ou de la conduction, de troubles à repolarisation, d'un intervalle PR court. À l'échographie, une hypertrophie ventriculaire gauche, souvent majeure, hein, touchant le septum, la paroi postérieure, et je le répète, mais dissociée par rapport à une hypertension ou à une insuffisance rénale. Plus rarement, à un stade avancé, on va avoir une diminution de la fraction d'éjection du ventricule, mais il faut savoir que c'est surtout la fonction diastolique qui est altérée en premier. L'échographie pourra révéler des signes plus fins que les spécialistes pourront rechercher. Le Holter ECG est toujours indiqué pour rechercher ces troubles du rythme et de la conduction. Enfin, en plan marqueur biologique, on pourra avoir une élévation de la troponine et du BNP en cas de cardiomyopathie évoluée. Et là, il faut rappeler la particularité. Chez les sujets ayant déjà une insuffisance rénale, on a souvent un BNP élevé d'interprétation difficile puisque la surcharge secondaire à l'insuffisance rénale entraîne pratiquement toujours des BNP un peu élevés. La sémiologie à l'IRM aussi s'est enrichie ces dernières années puisqu'elle va être plus fine et plus fiable pour dépister une hypertrophie ventriculaire gauche et plus récemment des signes évocateurs de maladie de Fabry comme un abaissement du temps de relaxation longitudinale du myocarde, ce qu'on appelle le T1 mapping. À un stade plus avancé de la maladie, on verra des zones de fibrose après injection de gadolinium.
Et pour conclure, professeur Knemelmann, comment les prendre en charge, ces atteintes rénales et cardiaques de la maladie de Fabry?
Alors la prise en charge comporte deux volets dans cette maladie, le traitement on va dire symptomatique d'organes et le traitement plus spécifique à la maladie de Fabry. En ce qui concerne le traitement symptomatique de l'atteinte rénale, il y a tout d'abord l'éviction des médicaments néphrotoxiques comme toujours, notamment les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'il ne faut pas donner pour des acroparesthésies ou d'autres douleurs qui n'ont rien à voir avec la maladie. Il faut corriger les facteurs de risque cardiovasculaires puisque ces patients ont déjà possiblement une insuffisance rénale, une atteinte cardiaque et donc éradiquer le tabac et traiter vigoureusement un diabète, une dyslipidémie qui serait associée sans rapport direct avec la maladie de Fabry. Pour le traitement de l'hypertension artérielle, on va privilégier le blocage du système rénine-angiotensine de façon impérative s'il existe une proténurie, voire même une microalbuminurie, en recherchant un double effet antihypertenseur et néphroprotecteur. Même en l'absence d'hypertension artérielle, il est suggéré de proposer un blocage système rénine-angiotensine dès le stade de la microalbuminurie, par analogie à ce qu'on ferait dans la néphropathie diabétique. Au stade de la maladie rénale chronique plus avancée, stade 3-5, il n'y a pas de recommandation spécifique et les mesures habituelles de régime hypoprotidique, de limitation en phosphore, de supplémentation en calcium, en vitamine D, voire de traitement par agents substituant l'érythropoïétine se font en fonction des données cliniques et biologiques habituelles. Il faudra toujours bien sûr adapter les posologies au degré d'insuffisance rénale. Au stade d'insuffisance rénale terminale, la maladie rénale chronique stade 5, la dialyse et la greffe répondent aux indications habituelles sans particularité. Il faut signaler que la mise sous traitement par enzymothérapie peut être utile et recommandée chez un patient dialysé ou transplanté, même s'il n'y a plus d'effet à attendre sur le rein, un effet protecteur contre l'atteinte cardiaque de la maladie est tout à fait souhaitable. Il faut signaler également qu'en cas de greffe rénale, la survie des patients est bonne, identique à celle des malades non diabétiques. Il également souligner et rassurer les patients qu'il n'y a pas de risque de récidive sur le greffon. Le greffon lui-même a une activité enzymatique normale. Pour les atteintes cardiaques, les traitements vont être selon les recommandations européennes pour les cardiomyopathies hypertrophiques, avec un risque accru dans cette maladie de nécessité d'appareillage, pacemaker, défibrillateur cardiaque dans les situations à risque. En ce qui concerne le traitement médical d'insuffisance cardiaque, il faudra utiliser prudemment les traitements bradycardisants, notamment les bêta-bloquants, puisqu'il y a un risque accru de troubles de la conduction dans cette maladie. Les troubles du rythme atrial, flutter, fibrillation, seront traités selon les recommandations habituelles par prévention des accidents thromboemboliques, anticoagulants directs, adaptés à la fonction rénale, c'est la particularité s'il y a une insuffisance rénale, ou antivitamine K. Pour l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, qui est la situation finalement la plus fréquente, le traitement est basé en partie sur les diurétiques, d'autant plus qu'il existe souvent une hypertension artérielle. En ce qui concerne maintenant le traitement spécifique de la maladie de Fabry, qui seront abordés ailleurs, le traitement spécifique repose sur la thérapie enzymatique substitutive, soit pour les molécules chaperones. Les données suggèrent que si on traite assez précocement, on peut avoir une stabilisation ou un ralentissement de l'aggravation, à la fois de la fonction rénale, si le traitement est instauré avant qu'un débit de filtration glomérulaire soit à peu près inférieur à 40 millilitres par minute. S'il est instauré plus tard, on ne voit pas de bénéfice et la maladie rénale continue à progresser. Sur l'hypertrophie ventriculaire gauche également, le traitement peut permettre de stabiliser et empêcher l'aggravation d'une hypertrophie ventriculaire gauche. Pour plus d'informations, les auditeurs pourront se référer au PNDS 2021, qui est sur le site de l'HAS. Et enfin, je voudrais insister sur la nécessité de contacter un centre de référence pour éviter des diagnostics par excès et pour, bien sûr, la mise en place éventuellement d'un traitement spécifique de la maladie de Fabry.
Eh bien, merci mille fois, professeur Knebelmann, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est la maladie de Fabry. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.